Le débat du jour. Gaëtan Plenet.
Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 1er décembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Entre 34 et 44 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le VIH dans le monde. Une estimation assez large, c'est vrai, mais qui s'explique notamment par le fait qu'il existe aujourd'hui encore un grand nombre de personnes contaminées et qui l'ignorent. Pourtant, le dépistage existe, des traitements aussi pour empêcher l'infection d'évoluer vers le sida et pour permettre aux malades de mener une vie quasi normale. Mais la situation est loin d'être la même partout sur la planète et on estime que chaque minute, une personne meurt du sida dans le monde. Pourquoi continue-t-on à mourir du sida aujourd'hui ? La lutte mondiale contre cette maladie est-elle un échec ? C'est le sujet du débat du jour sur RFI.
RFI.
Et trois invités avec moi pour en parler. Bonsoir Hélène Roger.
Bonsoir.
La directrice du plaidoyer AcidAction. Merci d'être avec nous. Merci à vous également Frédéric Chaudier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur du documentaire Révolution Sida qui est en salle depuis hier. On va avoir l'occasion d'en parler dans ce débat. Et bonsoir François Berdougo.
Bonsoir.
Par téléphone avec nous, délégué général de la Société française de santé publique, co-auteur du livre « La fin du sida est-elle possible ?» C'est aux éditions textuelles et vous êtes membre aussi de l'association humanitaire Médecins du Monde. Je me tourne vers vous, Hélène Roger. Je voudrais d'abord commencer en rappelant cet objectif ambitieux qui date d'il y a quelques années, celui de l'ONU Sida, qui voulait éradiquer l'épidémie de VIH-Sida d'ici 2030. Cet objectif, Hélène Roger, est-il encore atteignable aujourd'hui ? Alors qu'on est en fin 2022, bientôt 2023.
Malheureusement, on a des très gros doutes, vraiment. On sait que cet objectif, il était ambitieux, mais pas complètement irréaliste, hein, parce que finalement, on sait ce qui marche aujourd'hui. On a les outils de prévention, les outils de lutte contre le VIH. On a les traitements, on n'a pas le vaccin, mais voilà, on a toute une palette de choses qui font qu'on pense que c'est vraiment plus possible. Et je donnerai juste un exemple. On sait aujourd'hui qu'une personne séropositive sous traitement, qui est bien suivie, ne transmet pas le VIH. Donc voilà, on sait que si toutes les personnes qui ont le VIH pouvaient être bien suivies et sous traitement, on éradiquerait la transmission et donc le VIH. On n'est aujourd'hui pas du tout à ce niveau-là. On pense même que c'est pire qu'auparavant, puisque la Covid a fait finalement prendre pas mal de retard par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Et on s'était dit notamment qu'on serait à peu près 500 000 nouvelles infections par an en 2020. On est aujourd'hui à 1,5 million, donc non, on n'est pas du tout sur la voie.
Alors l'autre objectif de l'ONU SIDA, c'était la politique du 90-90-90 pour permettre un accès au dépistage et au traitement pour 90% des personnes séropositives. L'objectif, c'était d'ici 2020. Là, on peut faire un bilan. Est-ce que là, on y est ?
Oui, on n'y est pas, on n'y est pas non plus. Hein. Alors,
Double échec, ça a progressé.
Sur les dépistages, on n'a pas atteint les 90%. Sur les mises sous traitement, on est à environ 70-75% et non pas 90%. Et après, sur la charge virale indétectable, on est encore en dessous. Donc non, on n'est pas du tout au niveau.
À François Berdougo, Hélène Roger le disait, les outils, on les a théoriquement pour éradiquer cette épidémie de sida ?
Ah oui, on les a de façon incontestable. En tout cas, on a de quoi faire reculer les contaminations et à terme s'éteindre la diffusion du virus. Après, il y a un très vieux slogan de la lutte contre le sida qui est toujours valable et qui le sera probablement toujours, c'est que vaincre le sida, c'est une question de volonté politique. Cette volonté politique, elle se traduit à la fois par un engagement financier, un engagement de leadership des dirigeants, et puis l'abaissement de toutes les barrières dans l'accès aux soins, aux services de santé, au dépistage, à l'accès au traitement, dans la mise en œuvre de législations favorables aux droits des personnes, et notamment, en particulier, des groupes les plus concernés par l'épidémie, les plus stigmatisés, marginalisés. Donc oui, les outils sont là, les recettes, on les connaît, on a fait face à un certain nombre d'obstacles.
Mmh. Frédéric Chaudier, je parlais de votre documentaire qui est donc sorti en salle hier et qui, je le précise, a été tourné entre 2016 et 2019.
Absolument.
C'est-à-dire avant la pandémie de Covid-19, on aura effectivement l'occasion, comme Hélène Roger l'évoquait, de parler des répercussions qu'a eu cette pandémie sur la lutte contre le sida. Mais donc ce documentaire, il vous a amené en Afrique du Sud, en Chine, en Russie, en Thaïlande, aux États-Unis aussi. À chaque fois, c'est un tableau différent. Tous les pays du monde ne font pas face à l'épidémie de sida de la même manière et avec les mêmes outils ?
Non, j'aurais tendance à dire, moi, comme, comme il a été dit précédemment, c'est effectivement un virus politique. Donc la réponse, elle est bien entendu dans la recherche, mais on voit bien que la recherche a donné en 40 ans de temps des choses assez miraculeuses, bien qu'on n'ait pas de vaccin encore. Donc l'accès au traitement serait possible, mais il est empêché dans un certain nombre d'endroits du monde, et pas uniquement dans des territoires où on pourrait penser qu'il y a une incapacité à mettre en œuvre une structure sanitaire, etc. Non, y compris dans des grandes puissances mondiales. Cette absence d'accès, ou ces freins, ou ces phénomènes de stigmatisation, comme évidemment c'est le cas en Russie, en Chine d'une manière autre encore, sont des empêchements très graves. Et on voit bien que dans ces pays-là, et encore une fois, moi je ne parle qu'à mon endroit de réalisateur, je ne suis ni chercheur, ni politique, je suis une sorte d'observateur très très concerné, on voit bien que l'épidémie flambe. En Russie, en Ukraine, bon, en plus ça, le conflit, bien entendu, n'aide en rien la lutte contre l'épidémie. Dans certains pays d'Asie du Sud-Est, aux États-Unis, pour d'autres raisons, parce que la période Trump a été quand même une période extrêmement sombre, et d'une certaine manière, il y en a encore, les échos s'en font encore ressentir. Il ne faut pas oublier que dans 2 ans, il n'est pas exclu qu'il revienne au pouvoir. Donc tout ça, ce sont des sujets d'inquiétude. Il y a eu des freins liés évidemment à la Covid qui a énormément freiné. Je ne vais pas m'avancer sur les statistiques qui ont été données par ONU-SIDA, mais de mémoire, si une non-observance ou en tous les cas une rupture d'approvisionnement dans certains territoires en Afrique subsaharienne était avérée sur une période, me semble-t-il, de 10 mois, si j'ai bonne mémoire, c'était plusieurs centaines de milliers de morts possibles supplémentaires sur ce territoire. C'est-à-dire que ce sont des catastrophes, on le sait, c'est annoncé. ONU-SIDA, pour moi, n'est pas récriminé. ONU-SIDA lance des projets, des objectifs, et chacun ensuite autour de la table, les États qui sont autour de la table, charge à eux de mettre en œuvre les politiques sanitaires qui conduiraient à atteindre ces objectifs. Et force est de constater que la volonté n'y est pas. Et on peut questionner aussi, bien que la France soit extrêmement bien lotie encore, il y a quand même quelques sujets de préoccupation. Mmh. Mais ça, encore une fois, je ne suis ni chercheur ni médecin, donc je ne m'aventure pas. Mais dans l'observation que j'ai pu faire, oui, c'est un constat qui est quand même assez sombre pour l'heure. Oui.
Donc beaucoup de disparités que vous avez pu observer selon les pays. C'est ça qui, aujourd'hui, fait qu'on n'a pas éradiqué, c'est ça, entre autres, qui fait qu'on n'a pas éradiqué le virus du sida.
La question est comment avoir la volonté d'éradiquer une épidémie mondiale, donc une pandémie, en prétendant avoir des îlots de, entre guillemets, bien-être, qui ne le sont pas, hein, d'ailleurs. Et le reste du monde serait encore dans des phénomènes d'épidémie massifs. Il est assez peu probable qu'on en termine de cette manière-là avec cette épidémie.
Hélène Roger.
Oui, juste pour dire que la question des disparités, elle est aussi sur le principe qu'on dit souvent que le sida, c'est le révélateur des maux d'une société, MAUX. Donc en fait, le sida, il vient à l'endroit où il y a des problématiques d'accès aux droits, de stigmatisation, de déni des personnes, etc. Donc les disparités, elles viennent de là. C'est-à-dire qu'en fonction de votre difficulté de prendre en compte les situations et de faire accéder aux droits les personnes, vous allez avoir des disparités. Mais c'est vrai que ces disparités, elles sont extrêmement choquantes. Hein. Je prends juste un exemple qui, moi, à chaque fois, me choque beaucoup, c'est la question de la transmission mère-enfant. En France, aujourd'hui, et alors je dis ça alors que les chiffres sont sortis hier et qu'on a aujourd'hui pour la première fois une toute petite réaugmentation de la transmission mère-enfant, mais en gros, il y a très très peu de transmission mère-enfant, parce que les gens sont dépistés, parce que les femmes sont suivies, les femmes qui vont accoucher sont suivies. En Afrique subsaharienne, vous avez une femme sur 5 qui n'a même pas accès au traitement quand elle sait qu'elle est séropositive et qu'elle va avoir un enfant parce qu'elle n'est pas dépistée, parce qu'elle n'est pas suivie. Et il y a 35% des enfants qui vivent avec le VIH seulement qui ont accès au traitement antirétroviraux. Donc on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement choquantes en termes de disparité. Alors que, voilà, comme je le disais, les moyens sont connus en fait.
Et François Berdougo, face à ce constat, face à toutes ces disparités, est-ce que vous estimez que la communauté internationale agit suffisamment et investit suffisamment dans cette lutte contre le sida?
Alors, écoutez, d'abord, je voulais ajouter un complément, une illustration de ce que disait Frédéric Chaudier, c'est-à-dire que même en France, la communication, par exemple, du Conseil national du sida à l'occasion de cette journée mondiale 2022 porte précisément sur les obstacles existant en France dans l'accès aux soins et aux droits pour les personnes étrangères et migrantes et l'impact que ces obstacles ont sur l'aboutissement de ces objectifs. Donc, quand on dit que les moyens sont là, au sens de la réglementation, au sens de la responsabilité collective à assurer un accès à la santé à tous et toutes, comme un moyen d'éradiquer le VIH, ça concerne y compris notre pays, à certains égards. Bon, après, sur la question des engagements financiers, alors effectivement, il y a eu conférence de reconstitution il y a pas très longtemps. Bon, on peine quand même sur le long terme à atteindre des niveaux d'engagement massifs, majeurs. Bon, mais il y a aussi des enjeux plus globaux d'intégration de la question du VIH aux politiques de santé dans leur ensemble. Mmh. C'est-à-dire que une des façons de mettre en œuvre les objectifs de l'ONU-SIDA, c'est effectivement de généraliser le dépistage, puis l'accès au traitement, le maintien dans les soins, etc. Et ça, c'est une combinaison entre des approches VIH spécifique, j'allais dire, et puis des approches intégrées, transversales. Et donc là, on a un enjeu majeur de renforcement des systèmes de santé partout. Donc l'argent du VIH est important, mais plus globalement aussi, c'est à l'enjeu des systèmes de santé qu'il faut s'atteler.
Et Hélène Roger, la situation, je parlais des investissements, je pense notamment au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui intervient dans de nombreux pays. La situation, elle serait pire que ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas des organismes comme ça qui intervenaient?
Oui, bien sûr, parce que c'est à la fois des organismes qui déjà ont des financements conséquents, c'est des organismes qui ont aussi, et ça c'est intéressant, des moyens pour faire un peu pression sur certaines problématiques, notamment tout ce qui est population discriminée, soit parce qu'il y a des moyens d'avoir des financements pour la prévention et la prise en charge de ces populations que les gouvernements ne mettraient jamais. Et là, finalement, le fait que la communauté internationale puisse dédier des financements à ces populations très à risque, voilà, ça permet en tout cas de faire un minimum. Donc oui, c'est important et c'est important aussi en termes d'engagement politique de haut niveau. C'est-à-dire que c'est quand même des chefs d'État qui s'engagent à continuer à s'impliquer sur la lutte contre le sida. Mais après, c'est aussi ce que disait François et c'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui en termes d'engagement, c'est qu'il y a aussi une concurrence des luttes, et on l'a vu, hein, la Covid est venue balayer, enfin c'est le cas du VIH, mais comme de plein d'autres questions de santé, comme si Pierre déshabillait Paul, et non, en fait, il faut tout mener de front, et on ne peut pas arrêter de travailler sur certaines questions parce que la Covid arrive.
Et Frédéric Chaudier, d'ailleurs, à propos de ce Fonds mondial, dans votre documentaire, vous revenez sur le départ du Fonds mondial en Russie, c'est un exemple qui montre que la situation peut empirer quand il n'y a pas ces organismes. C'est ce que vous
oui,
montrez quand même.
C'est-à-dire qu'il y avait une forme de jeu de dupes, mais qui était salvateur pour les populations concernées en Russie, puisque l'État russe refusait d'abonder directement les associations qui œuvraient sur le terrain. Donc ça passait c'est un coup de billard à trois bandes. Donc on passait par le Fonds mondial qui abondait, il y avait un système de remboursement. Bon. Ils ont décidé, ils ont envoyé des lettres actant qu'ils étaient parfaitement capables de s'occuper du problème. Alors le problème, justement, c'est que s'occuper du problème selon l'État russe n'est en rien d'éradiquer le virus, mais d'éradiquer les populations qui sont potentiellement porteuses de ce virus, jugées déviantes, jugées ce qu'on veut. Ce qui est évidemment atroce et ce qui a évidemment un effet extrêmement délétère sur la lutte contre
Quand vous dites les éradiquer,
c'est-à-dire les emprisonner, les rééduquer pour les personnes qui seraient LGBTQIA+, les redresser. C'est-à-dire qu'elles sont jugées déviantes. C'est quand même, mais même dernièrement, là, il y a quelques jours, il y a encore des lois homophobes qui ont été votées par la Douma. Donc, ça n'engage en rien les populations concernées à aller se faire dépister et à chercher à être mise sous traitement. Bien entendu que non. J'ajouterais une chose, comme vous le disiez très bien, Hélène Roger, le VIH est historiquement un virus politique et il met en lumière les maux du monde, MAUX, vous le disiez très très justement. Et c'est ça qui est à la fois absolument dramatique et en même temps, à mon endroit de documentariste, qui est une forme de lorgnette de regard sur le monde, qui dépasse d'ailleurs le cadre des populations LGBTQIA+, qui entre aussi de plein pied dans les phénomènes de paupérisation, de précarisation, de misère, dans lesquels on laisse vivre beaucoup de populations. Les phénomènes de promiscuité dans les townships en Afrique du Sud, comme dans d'autres endroits d'Afrique subsaharienne, sont des vecteurs, produisent d'autres effets délétères de sexualisation ou d'hypersexualisation précoce des enfants, moyennant quoi il y a évidemment des incidents et des choses beaucoup plus graves qui surviennent ensuite. C'est-à-dire que ça éclaire un certain nombre de conditions de vie et de conditions dans lesquelles se retrouve, par le fait, une sorte de majorité de la population mondiale qui, elle, est très concernée par toutes ces conditions de vie. Pour finir, je ne vais pas présenter le micro, j'ai reçu ce matin, parce que l'une des vertus, il n'y a pas que des vertus dans les réseaux sociaux, mais l'une des vertus des réseaux sociaux, c'est d'avoir dit que mon film sortait. Et donc, en Afrique du Sud, ils sont au courant que mon film est sorti. Et j'ai reçu plein de messages, et parmi lesquels un message d'Anele Yawa, qui est le secrétaire général d'une grosse association qui s'appelle Treatment Action Campaign en Afrique du Sud, et qui subvient aux besoins de plein de gens et vient un peu en remplacement ou en épauler un système de santé défaillant. Le problème qu'ils ont, qui est très très concret aujourd'hui, le message qu'ils m'ont envoyé ce matin, c'est là on n'a plus de fonds et si d'ici février on n'a pas trouvé une solution, on ferme. C'est-à-dire que, et c'est un grand pays, l'Afrique du Sud, c'est plus de 80 millions de personnes, c'est de mémoire plus de 10% de la population qui est atteinte par le virus. Ce sont des associations qui sont éminemment nécessaires et on ne peut pas les laisser fermer. Sinon, ça veut dire qu'il y a une sorte d'effondrement et qui va encore aggraver la situation. Donc il faut absolument qu'il y ait, sur le territoire français, évidemment qu'on vienne en aide à toutes les personnes, on est en France, donc profitons-en, mais qu'il y ait un relais international très très fort, parce qu'on ne peut pas en finir avec une épidémie si on ne vient pas en aide aux territoires qui sont les plus concernés. Ça n'existe pas. Et sinon, ça sera un aveu d'échec amer, mais pour l'humanité tout entière, pas exclusivement pour certaines communautés. Voilà, ça raconte des choses qui vont bien au-delà, en fait, du virus. C'est notre rapport à l'autre, dans notre manière d'envisager l'autre dans sa différence et dans sa fragilité aussi, et comment on lui vient en aide.
François Verdugo, vous partagez ce constat, ce n'est pas seulement une épidémie sur le point médical uniquement, il y a aussi plein de questions sociétales, voire géopolitiques qui entrent en jeu.
Ah oui, l'épidémie de sida, la pandémie de sida, le sida, c'est un fait social total, comme diraient les sociologues. C'est-à-dire que c'est à la fois un prisme qui réfracte un certain nombre de questions qui viennent d'être citées, je ne vais pas les reprendre, et puis c'est effectivement ça offre une grille de lecture d'un certain nombre de rapports sociaux, de rapports qui traversent notre société, en termes de pouvoir, en termes de positionnement de certains groupes, discrimination, stigmatisation, pauvreté, précarité. Bon, l'essentiel vient d'être dit, donc je serais redondant si j'allais plus loin. Je souscris à cette lecture.
Alors, je voulais rebondir.
Oui, juste pour le côté un peu, on va dire, positif, c'est que la lutte contre le sida, c'est aussi un cheval de Troie. C'est-à-dire que ça a aussi souvent été utilisé pour faire avancer les droits. Moi, je me souviens, les premières associations, par exemple, qu'on a pu financer au Kenya, qui étaient des associations LGBT, elles se sont présentées au départ comme des associations de lutte contre le sida, parce que c'était l'opportunité, en fait, de dire on va régler une question de santé, mais derrière, de s'attaquer aux fondements, justement, qui étaient des fondements d'accès aux droits des personnes LGBT. Et donc, la communauté LGBT a pu dans certains endroits se construire aussi sur la lutte contre le sida, parce que ça permettait d'offrir, je dirais, une espèce de vitrine ou en tout cas de protection ou de respectabilité. Et donc voilà, ce côté cheval de Troie, je trouve aussi que c'est quelque chose d'intéressant, puisque comme les facteurs de vulnérabilité sont des facteurs sociopolitiques, on est obligé, nous, acteurs de la lutte contre le sida, de pas faire que du médical, mais d'aller sur ces facteurs de vulnérabilité et d'aller chercher des moyens d'y répondre. Et juste parce que je pense que c'est une conjonction, on parlait des moyens pour lutter, et il y a une actualité, moi, qui me chiffonne un petit peu. L'aide médicale d'État, qui est passée au Sénat hier, a été baissée de 350 millions d'euros. Et l'aide médicale d'État, c'est l'accès aux soins pour les personnes migrantes. Donc voilà, la question, elle n'est même pas... En parlant de la France, pardon, oui, tout à fait. Donc la question, elle n'est pas de savoir est-ce que ça va avoir des répercussions sur la lutte contre le sida, mais sur, globalement, la santé de ces populations. Oui, ça va avoir un effet, on le sait. La question, c'est quand et jusqu'à quel niveau. Mais voilà, ça fait partie de ces décisions politiques et de ces moyens moyens, où en plus on confond une question politique migratoire avec une question de santé. Enfin voilà, tout est questionnable sur cette
décision. Des populations en plus particulièrement vulnérables.
Particulièrement vulnérables, particulièrement loin des soins, particulièrement avec peu d'accès à tout ce qui est dépistage, prise en charge, etc. Et qui en plus, sentant cette vague un petit peu de, on va dire, de tension autour de la question migratoire, vont avoir encore plus de mal à aller vers des centres de santé parce qu'ils vont avoir peur qu'on leur demande leurs papiers, qu'ils se retrouvent extradés, etc. etc. Donc voilà, c'est aussi un serpent qui se mord la queue.
Alors vous parlez de peur, justement, ça me permet de parler de ce dont vous parlez dans votre documentaire aussi, Frédéric Chaudier, cette histoire du stigma, de la stigmatisation que vivent tous les jours les personnes qui sont atteintes du VIH et du sida. Ça, vous avez pu l'observer vraiment un petit peu partout, cette stigmatisation. C'est une réalité aujourd'hui.
Ah oui, c'est très récurrent, oui. Et la tristesse, la grande tristesse pour moi, c'est que je me demande bien ce qu'on peut leur reprocher à toutes ces personnes. Quoi. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que, bon, évidemment, maintenant, pardonnez-moi l'expression, on tire un peu sur une ambulance lorsqu'on parle de Poutine. Hein, depuis le 24 février dernier, c'est...
Le début de la guerre en Ukraine.
Voilà, c'est enfoncer un peu des portes ouvertes. Hein. Mais il y a un rapport viriliste, un rapport à sa propre masculinité, ainsi qu'à certains membres de son gouvernement, sans doute, qui est beaucoup plus à questionner, dans le fond, que ce qui est à questionner du côté des personnes atteintes du VIH ou qui ont, selon leurs critères, des modes de vie déviants. Donc, cette chose-là, cette pression constante dans laquelle vivent toutes ces personnes, en Russie, en Chine, autrement, parce que culturellement, il s'agit encore d'autre chose, mais malgré tout, il s'agit quand même de jugements portés sur l'autre et sur sa manière de vivre ou de se ressentir. Toutes ces choses-là leur sont contestées. C'est quand même dingue. À un moment donné, il faut juste se poser deux secondes et chercher le sens de ça. Qu'est-ce que ça raconte, ces discriminations-là? Si ce n'est, peut-être, alors je ne vais pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais un problème psychanalytique chez Poutine comme chez d'autres. Et donc, il faut renverser, en fait, ce stigma-là. C'est-à-dire, le truc là, c'est que toutes ces personnes qui subissent ces politiques iniques sont des personnes normales. Voilà, point. Ce sont les autres qui sont anormaux. Donc, il y a quelque chose quand même à distordre. Et puis, je voudrais revenir sur une chose, parce que le VIH, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est une loupe grossissante, voilà, etc., etc. Mais a ouvert des droits par le passé, en France, à tout un tas de personnes, y compris d'ailleurs, toutes ces personnes qui se sont massivement battues en ont fait bénéficier tout le reste de la société. Le droit des patients, même d'une certaine manière, les soins palliatifs, ont évolué aussi grâce à ça. Le PACS, évidemment, le mariage pour tous, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a, toutes ces personnes, la société tout entière peut les remercier. Voilà, les remercier d'une certaine manière, malheureusement pour elles, d'avoir eu le virus dans leur corps et d'avoir su en faire quelque chose de bénéfique pour l'ensemble de la société. C'est quand même une attitude très généreuse. Donc je ne vois pas à quel titre on viendrait, pardonnez-moi encore une fois l'expression, mais à un moment donné la colère, les emmerder pour ce qu'elles sont, et plus que ça même, alors qu'elles ont ouvert tant de portes. Il faudrait que ça cesse hein, et que la société française, puisque nous y sommes, mais plus large encore, réfléchissent au sens des choses et cessent d'incriminer les gens, je veux dire, pour une forme de délit de sale gueule parce qu'elles ont un virus dans leur corps ou parce que éventuellement elles seraient gays ou autres. Moi, je veux dire, les personnes gays, leur sexualité ne me concerne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prosélytisme gay. Voilà, donc de quoi a-t-on peur, quoi?
Mais alors, François Berdougo, comment on fait pour cela? Comment on fait pour faire cesser ces discriminations, cette stigmatisation? C'est de la sensibilisation?
Oui, alors, effectivement, on ne peut pas avoir une approche de la santé sans avoir une approche fondée sur les droits des personnes et la citoyenneté. Ça, c'est aussi d'ailleurs un des enseignements majeurs de ces 40 années de lutte contre le sida, c'est qu'il y a une articulation entre les questions de santé et les questions de citoyenneté. Et la reconnaissance, finalement, c'est lié aussi effectivement au regard qu'on porte sur l'autre, enfin sur soi-même et l'autre. La reconnaissance à la fois de l'humanité de l'autre et de sa capacité à jouir des mêmes droits que soi-même et du même statut dans la société. Alors on a effectivement des progrès à faire. Je pense aussi aux travailleuses et travailleurs du sexe. Je pense aussi aux usagères et aux usagers de drogue, évidemment, qui sont des groupes particulièrement stigmatisés ou marginalisés, y compris en France. Hein. La citoyenneté des travailleuses du sexe en France, elle est au niveau, elle est à un niveau assez bas. Enfin, la capacité qu'on reconnaît à ces individus d'avoir une parole légitime, fondée, etc. Et les usagers de drogue, c'est pas beaucoup mieux, même si les choses ont un petit peu évolué. Alors, comment on fait ? Évidemment, c'est du plaidoyer, c'est un discours public, c'est un discours autour de ces questions de citoyenneté et d'humanité. C'est-à-dire que si on a comme postulat philosophique et politique la question de l'égalité, de la fraternité, ça doit se traduire en actes. Et donc, c'est effectivement à toutes les échelles de la société, dans tous les milieux de vie, dès le plus jeune âge, que ces questions se travaillent. Alors, j'ai oublié, mais j'en ai déjà parlé un peu, les personnes qui sont d'origine culturelle, géographique, différente, qu'elles soient d'ailleurs étrangères ou françaises, hein, à travers la question du racisme. Bon, c'est donc oui, éducation, évidemment, et puis travail à une société plus fraternelle et sororale.
Mais tous ces défis-là, Hélène Roger, ils sont pas nouveaux. Le virus a été découvert il y a une quarantaine d'années maintenant. Comment on explique qu'on n'ait pas réussi, ce qui nous semble évident à nous aujourd'hui dans ce studio, mais comment on peut expliquer que ce ne soit pas aussi si évident et que ça freine en plus la lutte contre cette épidémie ?
Je vous assure que si j'avais une réponse à comment est-ce pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire une société plus fraternelle,
c'est vrai.
Je l'utiliserais aussi vite que possible. Non, mais je pense que François l'a dit. Et après, c'est à la fois une éducation, mais c'est aussi, je pense, prendre conscience des avantages et de l'intérêt vraiment pour la communauté de faire avancer toutes ces questions-là, parce que finalement, ça fait avancer tout le monde.
Alors, je reste avec vous parce que vous l'évoquiez tout à l'heure assez rapidement, le poids, les conséquences de la pandémie de Covid-19, ses conséquences sur donc la lutte contre le VIH et contre le sida. Alors, il y a eu des chiffres qui ont été publiés par Santé publique France, je crois. Donc, en 2021, 5,7 millions de dépistages en laboratoire en France. C'est en augmentation par rapport à l'année dernière, mais ça reste quand même bien en deçà du taux d'avant Covid-19. Comment on explique que ce retard puisse persister ? C'est quoi ? Les Français ont oublié qu'il fallait régulièrement se faire dépister ?
Oui, et on avait déjà ce problème-là. Hein. Le VIH n'est plus tellement d'actualité. On n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas à l'école. Hein, et on fait un gros travail parce qu'on est censé avoir 3 séances d'éducation à la sexualité à l'école pendant sa scolarité tous les ans. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc à l'école, on n'en parle pas. Dans la société, on en parle assez peu. Des messages de prévention, il y en a quand même assez peu. Donc c'était déjà pas la panacée. Et effectivement, le Covid est venu en rajouter une couche sur l'oubli. On va dire par rapport au VIH. Et oui, on voit que le taux de dépistage est en train de s'infléchir. On a des dépistages qui avant étaient plus importants et qui s'infléchissent. Et après, on le voit aussi dans les enquêtes qu'on fait, parce que c'est aussi dans les pratiques. Là, on a sorti, nous, des chiffres, puisqu'on a une campagne sur la question des infections chez les plus de 50 ans, par exemple, qui sont 23% des nouvelles infections en France, hein, d'après les chiffres qui sont sortis mardi. Voilà, c'est parce que pour les personnes de plus de 50 ans, le VIH, c'est même pas une question. Mmh. En fait, ils ont oublié, ils ont eu une sexualité, peut-être, voilà, ils ont été en couple pendant longtemps, ils retrouvent une sexualité après un divorce, etc., par exemple. Et en fait, le VIH n'est plus du tout d'actualité. Et comme ils n'entendent pas parler, du coup, c'est difficile aussi de se prémunir ou d'aller se faire dépister.
Mmh. François Verdugo, peut-être une dernière question avec vous. Où est-ce qu'on en est au niveau de la recherche aujourd'hui dans la lutte contre le sida ? Que reste-t-il à faire, à inventer du point de vue médical ?
Alors,
le vaccin, on l'a dit, effectivement, pas de vaccin pour l'instant.
Non, vous me donnez une lourde responsabilité, mais je vais essayer de répondre en 3 mots. Alors effectivement, il y a la question de la recherche vaccinale, grand défi pour un virus comme le VIH, et puis il y a la question de la guérison. Alors, il y en a d'autres, hein, mais pour simplifier, je veux dire, il y a la question de la guérison qui, de fait, de la possibilité de vivre sans antirétroviraux, voire même éventuellement un jour d'éradiquer le virus, qui sont des chantiers mondiaux dans lesquels sont investis beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, mais c'est un travail pour le coup de longue haleine et dont on n'aura pas de fruits dans les toutes prochaines années. Mmh. Mais c'est des pistes sérieuses, c'est-à-dire qu'il y a des façons d'imaginer que c'est un horizon atteignable. Et puis en matière de prévention, peut-être, il y a le développement de nouveaux outils et de nouvelles façons d'organiser la prévention, notamment sur une base biomédicale, donc avec des molécules antirétrovirales. Voilà, très, très schématiquement. Mmh. Après, il y a tout le volet de la recherche en santé publique, en sciences humaines et sociales, etc., mais c'est un petit peu long.
Bien sûr, plus compliqué. En tout cas, merci beaucoup François Berdougo, délégué général de la Société française de santé publique, co-auteur aussi du livre « La fin du sida est-elle possible ?» et membre de l'association humanitaire Médecins du Monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Hélène Roger, directrice du plaidoyer à SIDAction. Et merci à vous, Frédéric Chouadier, réalisateur du documentaire « Révolution Sida ». C'est en salle depuis hier. C'était le débat du jour sur RFI. L'information continue. Reste avec nous.